Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série d'été consacrée à la philosophie politique. Vous pouvez retrouver les autres émissions de cette série sur notre site internet revueconflit.com. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro qui est consacré au terrorisme et notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Et puis, en allant sur notre site internet revueconflit.com, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également abonner vos amis, faire connaître Conflit. En vous abonnant, vous nous permettez de développer Conflit et notamment de vous proposer ce contenu gratuitement qui vous permet de découvrir ces grands auteurs de la philosophie politique. Alors nous poursuivons notre voyage, nos découvertes. Et cette semaine, nous allons aborder un couple de philosophes qui est peut-être l'un des premiers couples duo de la philosophie, à savoir Platon et Aristote. On connaît cette fresque de Raphaël dans les chambres de Vatican où on a Platon et Aristote, Platon montrant le ciel et Aristote montrant la terre, entouré de l'ensemble des grands philosophes de la Grèce antique et notamment d'Athènes. Platon et Aristote, c'est un petit peu le couple habituel que l'on découvre lorsque l'on débute ses premiers pas dans la philosophie, et comme nous allons le voir, ils sont à la fois complémentaires et aussi opposés, et tous les deux ont joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie occidentale. Pour parler de Platon et d'Aristote, je reçois cette semaine Damien Tellier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie dans un lycée à Paris et vous avez publié plusieurs ouvrages sur des auteurs de philosophie et notamment récemment chez Ellipse, La philosophie en 60 livres, ouvrage qui est dirigé par Thibaut Grèce que nous avons reçu pour une émission sur Hegel et où vous avez notamment consacré le chapitre à Tocqueville ainsi que d'autres chapitres, donc la philosophie en 60 livres chez Ellipse. Toutes les références sont à retrouver sur notre site internet. Alors Platon et Aristote, c'est, on l'a dit dans cette introduction, c'est le premier duo en quelque sorte, c'est les incontournables. N'importe quel étudiant en philosophie commence par eux, peut-être par la République de Platon et puis les politiques d'Aristote. En quoi sont-ils importants et pourquoi est-ce qu'on les associe tous les deux ?
Alors oui, c'est vrai que Platon, c'est vraiment le grand initiateur de la philosophie occidentale de manière générale, mais également de la philosophie politique. Et vous avez fait référence à la fresque de Raphaël. Moi, j'ai envie de revenir un peu là-dessus parce que ça permet de poser un petit peu justement le duo et de comprendre un petit peu déjà ce qui les oppose. Alors vous avez dit effectivement Platon... qui ressemble beaucoup à Léonard de Vinci, je pense qu'il y a eu une inspiration de la part de Raphaël, lève le doigt vers le ciel. Et ça veut dire que Platon désigne le ciel, les idées, le monde intelligible. Hein, on peut se rappeler le fameux mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne, où justement il s'agit de sortir de cette caverne pour découvrir que la réalité se trouve au-delà. Donc, pour Platon, le vrai n'est pas dans ce monde-ci, ce monde sensible, qui n'est qu'un monde d'apparence. Le vrai est dans les idées qui sont abstraites et donc qui ne sont pas visibles. Et en revanche, on voit que Aristote s'oppose directement à Platon sur ce point. Il tend la main vers le sol, il désigne en effet la terre, c'est-à-dire le monde sensible. Pour lui, la vérité provient de la contemplation du monde sensible et par l'action de l'intellect, on va pouvoir concevoir des idées et, partant de là, développer une science, mais une science réaliste, qui part du réel et qui part de nos sens.
On a l'impression que cette opposition entre les idées et le sensible, c'est un peu la grande opposition de la philosophie qu'on a. Dès qu'on rencontre un auteur, il est soit platonicien, soit aristotélicien, c'est-à-dire soit dans les idées, soit vers le sensible et vers la terre.
Alors oui, mais en même temps, n'oublions pas aussi qu'Aristote est un vrai disciple de Platon et qu'il lui doit énormément. Ils partagent tous les deux quand même une chose qui est essentielle, c'est la conviction que la vérité existe, qu'on peut la connaître, au moins s'en rapprocher. Et par là, il y a une autre opposition qui va se dessiner entre ceux qui, justement, sont convaincus que la raison humaine est capable de vérité et les autres qui pensent au contraire, qui seraient, on pourrait dire, des sceptiques et qui pensent au contraire que la raison est impuissante et que la vérité est totalement inaccessible.
Alors, vous l'avez dit, Aristote est disciple de Platon, qui est lui-même disciple de Socrate. Donc, c'est peut-être de lui que tout part,
oui,
finalement.
Oui, alors, tout à fait. Parce qu'en fait, la réflexion de Platon, elle part d'une critique de la démocratie. Et cette critique de la démocratie, c'est à l'école de Socrate, en fait, hein, qu'il l'a médité. Parce que il faut pas oublier que Socrate, toute sa vie, a été opposé aux sophistes. Et les sophistes régnaient à Athènes et... ce qu'il reprochait justement aux sophistes, c'était de valoriser l'opinion et non pas le vrai, non pas la vérité. Et si les sophistes avaient tant d'importance à Athènes, c'est parce que c'était une démocratie et que donc il fallait savoir bien parler, il fallait savoir défendre le vrai et le faux indifféremment et donc triompher, avoir toujours raison, quoi qu'il arrive. Alors, donc il y a déjà ce premier phénomène qui va faire douter Platon de la démocratie. Et puis il y a un deuxième fait historique, c'est la mort de Socrate. C'est-à-dire qu'il a vu Socrate se faire condamner à mort par un tribunal populaire, donc en fait par le peuple d'Athènes, manipulé par les sophistes. Donc on voit, enfin, il y a vraiment la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'il y a le règne des sophistes d'un côté, et puis finalement le peuple qui est manipulé par des démagogues et qui finit par désigner Socrate comme l'homme le plus injuste, alors que c'était l'homme le plus sage.
Parce que le procès est légal, dans le sens où la procédure juridique est respectée. Mais en revanche, il est immoral, puisqu'on a tué et condamné un innocent.
Oui, on peut le voir comme ça, oui, tout à fait. Oui.
Les remarques de Platon sur la démocratie nous rappellent aussi des choses que l'on vit aujourd'hui, notamment vous aviez rédigé dans l'ouvrage d'Ellipse, le chapitre sur Tocqueville. Alors, la démocratie athénienne n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui, notamment dans sa réalisation. Mais néanmoins, cette question de la vérité, cette question de la manipulation de l'opinion, ça, c'est quelque chose qui est un peu une des trames constantes de la réflexion des philosophes en politique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la réflexion, je crois, elle porte d'abord sur le peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? Est-ce qu'un peuple est compétent pour prendre des décisions politiques ? Est-ce qu'un peuple est compétent pour gouverner ? Je pense que c'est ça la grande question que Platon s'est posée. Et sa réponse, c'est non. Non, le peuple n'est pas compétent. Il faut pour Platon des élites qui gouvernent. Et donc, il récuse en fait la logique qui était celle de la démocratie athénienne, qui était l'isonomia, la logique isonomique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'isonomia ? C'est l'égalité de tous devant la loi, c'est l'égalité en droit. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, donc qui existait, qui était déjà très présent dans l'Antiquité. Et on avait aussi l'iségoria. L'iségoria, c'est le partage de la parole à égalité. Donc cette notion d'égalité était centrale dans la démocratie athénienne, et Platon la récuse. Il la récuse, mais radicalement. Pour lui, l'égalité ne conduit qu'à des conflits, à des divisions et à la corruption de la cité. Pourquoi ? Parce que chacun se croit capable justement d'émettre des opinions qu'il fait passer pour des vérités, et puis chacun cherche à tirer à soi finalement le pouvoir par tous les moyens, et c'est le règne des démagogues. Donc pour Platon, c'est ça qu'il faut déconstruire, c'est cette notion d'égalité, et il va le faire dans la République.
Et pour lui, donc ceux qui doivent diriger la cité, c'est une sorte d'élite, donc les aristocrates sont les philosophes. Alors c'est pas toujours très bien compris cette notion de philosophe, parce que Peut-être qu'aujourd'hui, on a une vision du philosophe un peu différente de ce qu'elle était à l'époque de Platon. Qu'est-ce qu'il entend justement par ce gouvernement des meilleurs, de l'élite et donc des philosophes ?
Alors, déjà, Platon fait une analogie entre l'âme et la cité. C'est une belle image parce que ça permet de bien comprendre. C'est-à-dire, dans l'âme, il y a des parties différentes. Il y a la raison, qui est la partie supérieure. Il y a la volonté, le cœur. Et puis, il y a la partie basse, qui sont les désirs. Et donc, on voit qu'il y a une hiérarchie dans l'âme. Comme d'ailleurs, il y a une hiérarchie dans le corps. Hein. Il y a la tête, il y a la poitrine et il y a le ventre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour Platon, la cité doit être construite selon une hiérarchie bien ordonnée, harmonieuse, entre différentes parties. Et à la tête, en effet, Platon pense qu'il faut mettre les hommes qui sont sages, qui sont éclairés, ceux qui connaissent le bien et qui sont capables donc de le réaliser dans la cité.
Ça veut dire qu'il a une vision organique de la société ?
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour Platon, le mal fondamental, c'est le désordre, c'est la division, c'est le conflit. Donc, il va tout faire pour envisager une harmonie de la cité. Et cela ne peut se faire qu'en hiérarchisant les classes et en faisant que chaque classe soit subordonnée à une autre et que chacun se trouve à sa place, fasse le rôle, joue le rôle que la nature lui a fixé. Et donc, Platon envisage dans la République que l'on discerne quels sont ceux qui sont aptes, qui ont la capacité à devenir philosophes et à donc diriger la cité, et quels sont ceux qui sont plutôt capables de travaux manuels ou bien d'être des soldats. Et on a ainsi les trois classes de la cité. Alors ça va reposer donc sur une sorte de discrimination, hein. Il s'agit donc de vraiment séparer les gens dès la naissance, hein, dit Platon, et puis ensuite de les élever, de les éduquer, et notamment les philosophes, il va falloir tout un travail éducatif très très poussé pour qu'ils soient en mesure de, par eux-mêmes, prendre les bonnes décisions.
Cette distinction en trois classes, on la retrouve à peu près très loin dans l'histoire de l'Europe à l'époque médiévale, peut-être jusqu'à la Révolution française. Ça a pu un petit peu évoluer dans les formes. Enfin, l'idée qu'on a une tripartition de la société, c'est quelque chose qui a quand même profondément marqué l'organisation de la société occidentale.
Mais même dans les sociétés orientales, hein, on voit exactement la même chose. On a partout, regardez en Inde, on a tout en haut, on a les prêtres et les brahmanes. Puis on a les guerriers, et puis on a les travailleurs, voilà. C'est quelque chose de constant dans toute l'histoire de l'humanité. Donc Platon n'est pas original, simplement ce qu'il met en exergue, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide, c'est pas des prêtres, c'est pas des religieux, c'est pas des riches, c'est même pas une aristocratie du sang, c'est une aristocratie de l'esprit, de la sagesse, c'est ce qu'on pourrait appeler une idéocratie, une idéocratie. Ça, c'est original. Ça, c'est propre à Platon. On le voit, je pense, nulle part ailleurs.
Cette réflexion sur le bon gouvernement, c'est aussi quelque chose qui a traversé l'histoire de la philosophie politique. On voit notamment au XVIe, XVIIe siècle, même la Révolution française, c'est aussi cette réflexion sur quelle est la meilleure forme de gouvernement, monarchie absolue, monarchie parlementaire, république. C'est un petit peu disparu aujourd'hui du débat politique. On réfléchit plus tellement sur la meilleure forme possible du gouvernement, mais plutôt sur autre chose, notamment en France, la notion d'égalité qui est très prégnante, mais la forme du gouvernement, en tant que réflexion, semble avoir un peu disparu.
Oui, oui, et d'ailleurs, alors c'est là où peut-être on peut évoquer Aristote, parce que c'est Aristote qui a essayé de mettre en forme un schéma qui est devenu très classique, où il distingue deux grandes formes fondamentales de gouvernement. Pour lui, il n'y en a que deux. C'est simple. Il y a le gouvernement républicain, c'est-à-dire celui qui a en vue l'intérêt général et qui traite les citoyens comme des sujets de droit. Et puis il y a, donc comme des hommes libres, comme des sujets libres et non pas comme des esclaves. Et puis il y a le despotisme. Deuxième grande forme de gouvernement, le despotisme, qui lui vise l'intérêt particulier des gouvernants et traite les citoyens comme des sujets soumis, comme des esclaves. Et donc à partir de là, Aristote dit une république peut être gouvernée par un seul homme, ou par quelques-uns, ou par tous, ou le plus grand nombre, dans le cas de la démocratie. Ça veut dire que Aristote, contrairement à Platon, légitime la démocratie. Il la légitime comme une forme possible de gouvernement républicain, au même titre que la monarchie ou l'aristocratie. Donc là, je pense qu'il y a un point à creuser.
Et chez Aristote, c'est une notion de philia, donc de lien commun entre les personnes. Pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait quelque chose qui les unisse, qu'il y ait une culture commune.
Oui, mais justement, alors, il faut qu'il y ait une unité, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. C'est là où, justement, Aristote se sépare de Platon. Platon voyait dans l'unité le bien suprême. Pour lui, une société devait être absolument unie, à tel point que Platon avait envisagé que pour les philosophes, les gardiens de la cité, il n'y ait ni famille, ni propriété privée. C'est-à-dire qu'ils soient tellement unis qu'il n'y ait plus rien qui leur appartienne, ni femme, ni enfant, ni propriété privée. De telle sorte que chacun soit totalement dévoué au bien commun et à la collectivité. Et là, Aristote dit non, c'est absurde. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'Aristote voit bien que le réalisme d'Aristote, c'est de dire il ne s'agit pas de chercher la société idéale, il s'agit de chercher la société qui peut fonctionner. Et si on veut une société qui fonctionne, il faut repartir des besoins humains et des tendances humaines, c'est-à-dire de la nature humaine. Or, la famille, la propriété, ça fait partie des grandes inclinations fondamentales de l'homme. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Comme de même, pour Aristote, il faut également s'appuyer sur l'égoïsme de l'homme. Platon voulait éradiquer l'égoïsme. Aristote pense que non, ça fait partie des choses qui peuvent avoir servir finalement les intérêts. C'est une idée qui sera reprise plus tard et développée par pas mal de philosophes et d'économistes. Mais voilà, partir de la nature humaine, c'est ça le réalisme d'Aristote. Donc, il faut de l'unité, mais il n'en faut pas trop non plus. C'est bien qu'il y ait des croyances communes, mais il faut aussi de la pluralité. Et Aristote est conscient que jamais on obtiendra une société parfaitement unie, parce qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des divisions. Mais peu importe, ce qui compte, c'est l'équilibre entre les différentes forces qui composent la société, les différentes classes, parce que Aristote est conscient qu'il y a des classes sociales, il y a des riches et il y a des pauvres, il y a des ignorants et il y a des savants. Mais justement, cette diversité, cette pluralité doit être maintenue dans une sorte de concertation, d'équilibre, toujours imparfait, en fait, plutôt que de chercher l'idéal qui n'existe pas.
Aristote a contribué à rédiger directement plusieurs constitutions, donc il a voulu mettre en pratique aussi ses idées,
oui.
Qu'il a développées dans les politiques, qui est un des ouvrages les plus connus, mais il a servi de conseiller pour plusieurs cités par la suite.
Il a d'abord été le conseiller d'Alexandre le Grand. En fait, il était d'abord son précepteur au départ. Et puis Alexandre le Grand, qui est monté sur le trône à 16 ans ou 17 ans, enfin à la mort de son père, qui a été assassiné. Et Aristote est resté proche de lui et l'a conseillé. Donc oui, simplement, le point de vue d'Aristote là-dessus, c'est le régime mixte. Il dit toujours qu'il n'y a pas de société parfaite, qu'il n'y a pas de régime politique parfait. En revanche, il voit comme la meilleure formule un régime mixte, c'est-à-dire qui va associer les qualités de chaque régime, par exemple de la monarchie, de l'aristocratie, de la démocratie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une participation du peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple, selon Aristote, n'est pas une espèce de masse informe et ignorante. Le peuple est composé de différentes fonctions, différentes capacités qui peuvent être mises au service de l'intérêt général. Et surtout, c'est que les lois s'appliquent au peuple. Donc le peuple est celui qui est le mieux placé pour savoir si ces lois sont utiles ou pas. Il est compétent pour juger de ça. Et enfin, il faut quand même qu'il y ait des élites culturelles, des élites intellectuelles, morales. Mais également, Aristote est favorable à un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne cette unité d'une cité et qui maintienne autant que possible par sa personne en fait, l'unité de l'ensemble.
Aristote a beaucoup influencé et été repris par saint Thomas d'Aquin à l'époque médiévale. Donc, est-ce que la pensée politique, époque médiévale, est particulièrement aristotélicienne ? Platon est plutôt redécouvert à partir du XVIe siècle et notamment de l'arrivée des Grecs orientaux à partir avec la chute de Constantinople. Mais la pensée d'Aristote a irrigué ensuite la construction politique de l'époque médiévale.
Oui, alors après une longue période qui était quand même dominée par ce qu'on appelle l'augustinisme politique, Bon, l'augustinisme politique a été très critiqué justement par saint Thomas. Donc là, je pense que là, il y aurait une émission à part entière à consacrer là-dessus. Hein, sur la... Parce qu'il y a toute la question des rapports entre l'Église et l'État hein, qui est derrière ça. La cité de Dieu, la cité terrestre. Mais c'est vrai que là où saint Thomas est novateur, c'est qu'il va chercher chez Aristote ce que saint Augustin allait chercher chez Platon. Justement. Hein. Et là, on va retrouver entre saint Augustin et saint Thomas la différence qu'il y a entre Platon et Aristote. L'un qui est idéaliste, qui croit dans la cité parfaite, et l'autre qui est plus réaliste, plus tempéré, et qui pense qu'il faut se contenter d'un équilibre toujours fragile, en fait, hein, entre différentes forces.
Comment pense-t-il, justement, vous évoquez la cité de Dieu et la cité des hommes, la place de la religion dans la cité, l'un et l'autre? Est-ce que c'est uniquement une religion civique qui sert à créer une unité? Ou est-ce que, on parle beaucoup de laïcité depuis quelques, au moins 150 ans en France, mais est-ce qu'il y a cette réflexion sur les rapports entre le religieux, le domaine religieux et le domaine politique?
Alors pour moi, les penseurs grecs, les philosophes grecs sont les premiers inventeurs de la laïcité. Mais la laïcité entendue au sens philosophique, c'est-à-dire la capacité de pouvoir raisonner, de pouvoir faire usage de sa raison indépendamment d'une vérité révélée, hein, indépendamment justement d'une foi religieuse. Hein, c'est-à-dire la capacité d'exercer une pensée rationnelle en toute autonomie, en toute indépendance. Donc ça, c'est vraiment les Grecs qui nous l'apprennent. C'est la philosophie grecque qui met en œuvre cette pensée, ce logos. En fait, la philosophie, qu'est-ce que c'est? Sinon, une laïcité en action, en fait. Hein. Alors après, sur le plan politique, il n'y a pas de rejet de la religion. Il n'y a pas de texte très très défini sur la question de savoir est-ce qu'il faut une religion officielle, est-ce qu'il n'en faut pas, est-ce qu'il faut des prêtres, est-ce que, etc. C'est quelque chose qui va se développer par la suite, surtout au Moyen-Âge, mais dans l'Antiquité grecque, on a l'impression que les choses sont quand même très séparées, puisqu'en fait, Platon n'en parle quasiment pas dans la République.
Et il faut dire aussi que la pratique religieuse grecque est assez différente même de celle des Romains, et a fortiori à l'époque du monde chrétien. Donc il y a un rapport qui est effectivement différent. Autre élément aussi sur ces Platon et Aristote, comment pense-t-il le rapport de la cité aux autres cités? Parce que le monde grec est divisé en plusieurs cités, il n'y a pas un empire grec. Et puis il y a les cités extérieures, il y a les Perses, et on connaît les combats réguliers entre les Grecs et les Perses, les Égyptiens. Est-ce qu'ils arrivent à concevoir la différence qu'il peut y avoir entre différents peuples, la question aussi de l'intégration de l'étranger dans la cité, et la question aussi de la défense de la cité, notamment par la guerre?
Oui, alors, il y a une particularité du peuple grec, c'est que c'était un peuple de navigateurs, parce qu'en fait la Grèce c'est un archipel, c'est des îles, donc ils étaient très forts en navigation. Ils ont mis au point très tôt des techniques de navigation assez performantes. Donc ils ont été vraiment les premiers dans le monde méditerranéen à se lancer en fait à la conquête du monde, on pourrait dire, avec leurs bateaux. Ils avaient des trières qui étaient extrêmement rapides, et d'ailleurs, et ils étaient très forts aussi sur le plan des batailles navales grâce à ça. Donc ils se sont ouverts beaucoup plus tôt, je pense, que tous les autres peuples à la diversité justement des cultures, des religions, des mythes. Et c'est peut-être aussi ce qui a permis cet éveil si fascinant en fait de la pensée philosophique, de la réflexion sur l'universel, sur la raison. C'est parce qu'ils se sont bien rendu compte qu'en effet il y avait une grande diversité de mythes religieux, mais que pourtant on avait tous la même raison. Donc voilà, bon, ça c'est une première réponse. Après, sur la question de l'étranger, bon, il y a un statut pour l'étranger, en effet, dans la cité. C'est pas un esclave, hein, il a certains droits, mais il n'a pas tous les droits. Voilà.
Aristote,
pour le dire simplement.
Oui. Aristote est aussi celui qui a pensé la physique. Il est célèbre aussi pour ce trait de la physique. Est-ce qu'il fait un rapport entre le monde politique, le monde des hommes, et le monde naturel, le monde de la physique, donc des choses, de la nature?
Oui, on peut dire que justement, Aristote a une conscience très vive du fait que le monde physique, ce qu'il appelle le monde sublunaire, c'est-à-dire finalement le monde dans lequel on vit, hein, le monde matériel, ce monde est un monde qui est imparfait et qui est soumis au hasard, qui est imprévisible, on ne peut pas connaître l'avenir, ce sont les fameux futurs contingents, hein, et puis donc, et il y a beaucoup de défauts, et donc, dans ce monde-là, il faut accepter en effet qu'il y ait des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne peuvent entrer dans une maîtrise rationnelle complète. Et donc, il en va de même en politique, c'est-à-dire qu'en politique, il n'y a pas de science du bien, il n'y a pas de science politique au sens strict. Il ne peut y avoir qu'un art qui est l'art de la prudence et qui se constitue par l'expérience. C'est pour ça d'ailleurs que Aristote critique la théorie du philosophe roi de Platon. Il ne pense pas que le philosophe soit mieux placé pour gouverner. Parce qu'en fait, le philosophe, le problème, c'est qu'il est, il a tendance à rationaliser, il a tendance à construire des théories, mais il n'est pas toujours compétent pour agir, en fait, hein, pour prendre des décisions rapidement. Or, c'est ça dont on a besoin. Et c'est pour ça que, pour Aristote, un bon homme politique n'est pas nécessairement un philosophe, n'est pas non plus nécessairement un homme de bien, n'est pas non plus nécessairement un homme vertueux, au sens strict. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être un homme vertueux et être pourtant un bon politicien ou un politicien de qualité. Donc, il fait bien attention à distinguer les choses et il ne confond pas la morale et la politique, bien que, évidemment, l'homme politique a besoin de la philosophie comme il a besoin de morale. Il faut les deux.
Quelle est la finalité de la cité pour Aristote ? Est-ce que c'est de conduire les gens vers le bonheur, vers le bien ? Est-ce que c'est de maintenir la paix ?
Alors, ça reste quand même quelque chose d'assez proche de Platon, parce que finalement, c'est ce qu'on retrouve chez tous les grands penseurs de l'Antiquité. Je dirais c'est la vertu. C'est la vertu. C'est-à-dire qu'en fait, alors on peut parler de bonheur si on veut, mais c'est pas le bonheur au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est pas le bien-être, hein. C'est le bonheur au sens de la vertu. C'est-à-dire que si les hommes ont besoin d'une organisation politique, s'ils ont besoin de lois, c'est pour justement mettre en place les conditions de la vertu. C'est-à-dire que la loi ne contraint pas à la vertu, mais elle pose les conditions à partir desquelles il est possible à l'homme de rechercher la vertu.
Et quelle est la vertu la plus utile à celui qui dirige la cité ? Est-ce que c'est la prudence ? Est-ce que c'est la grandeur d'âme ?
Alors, incontestablement, c'est la prudence. Ça, Aristote, là-dessus, il revient toujours. C'est l'intelligence de l'action, en fait, la prudence. Mais, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres qualités. On va dire il y a la justice, il y a le courage. Mais enfin, la prudence reste la vertu reine en politique.
Oui, on peut supposer que la prudence conduit justement d'abord au courage et aussi à la pratique de la justice. Ouais. Et pour Platon, quelle serait la finalité de la cité quel est son but ? Est-ce que c'est là aussi une notion de bien commun, de...
Oui, il y a toujours un but moral, hein. C'est-à-dire que c'est bien la justice, on pourrait dire. Et la justice, parce que d'ailleurs, la République, elle est sous-titrée de la justice. C'est vraiment ça, hein, qui l'a en vue. La justice, Platon ne l'envisage pas de la même façon qu'Aristote. C'est là où, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas y revenir, mais pour lui, la justice, elle réside dans l'unité. Et donc dans une unité organique, comme on l'a dit, alors que chez Aristote, non.
Eh bien, merci beaucoup, Damien Tellier, d'avoir évoqué ce duo de philosophie politique, Platon et Aristote. Je rappelle un des ouvrages auxquels vous avez participé récemment, publié La philosophie en 60 livres, paru chez Ellipse. Et je renvoie également nos auditeurs aux autres émissions de cette série d'été consacrée à la philosophie politique que vous pouvez retrouver sur notre site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez aussi retrouver notre dossier actuellement en kiosque qui est consacré au terrorisme, la menace sans fin, et à notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.